Rappelez-vous, dernier dimanche, hein, je vous ai donné la liste des passages bibliques à lire chaque jour qui nous permet de voir où était Jésus et ce qu'il faisait la semaine qui a précédé sa mort et sa résurrection. Il y avait des passages pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui. Et ces passages étaient arrangés en ordre chronologique, hein, comme si nous étions là il y a 2000 ans, pour que nous puissions le suivre depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Et j'espère que vous l'aviez lu et que vous avez médité sur ces passages. Dans les listes que je vous ai données, la lecture pour ce dimanche, jour de la résurrection, c'est Matthieu 28, 1 à 8, Marc 16, 1 à 6, Luc 24, 1 à 11 et Jean 20, 1 à 8. J'ai choisi ce matin de parcourir ce magnifique chapitre de la résurrection raconté par un médecin. Il s'agit de Dr. Luc. Et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 24, hein, où c'est un magnifique chapitre majestueux qui nous raconte ce qui s'est passé, hein, pour la résurrection de Jésus-Christ. Mais j'aime bien quand même vous situer ce qui se raconte dedans, parce que nous avons lu juste dans notre lecture que je vous ai donnée, du verset 1 à 11. Mais il faut parcourir le chapitre tout en entier. C'est pour cela que j'aime juste souligner que dans ce chapitre 24 de Luc, hein, il y a différents sujets qui sont traités. D'abord, du verset 1 à 8, nous allons voir l'expérience des femmes qui sont venues au sépulcre. Du verset 9 à 12, nous allons voir l'effet du témoignage de ces femmes sur les disciples. Et du verset 13 à 35, la rencontre de Jésus avec deux disciples qui rentrent chez eux à Emmaüs et voir les effets de cette rencontre. Et ce matin, c'est juste ces trois points que nous allons traiter. Mais vous continuez chez vous, du 36 à 49, Jésus va rencontrer ses disciples dans la chambre haute, où ils se sont enfermés. Et du verset 50 à 53, ça parle de l'ascension de Jésus à la droite de Dieu. Donc, nous allons tout de suite voir, hein, la partie qui traite donc de l'expérience des femmes au sépulcre. Et à ce sujet, je vous invite à chercher votre Bible, Luc 23, verset 55, jusqu'à Luc 24, verset 1. Il est affiché sur le PowerPoint devant vous. Lisons ce passage. Luc 23, verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. On parle ici de Joseph d'Arimathée. Virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparé. Donc Luc, d'emblée, nous amène à considérer ces femmes, hein, qui sont venues au sépulcre. Et ce passage nous dit qu'est-ce qui préoccupait les pensées de ces femmes. Leurs pensées se limitaient aux circonstances d'un enterrement ordinaire qui se faisait à l'époque. Hein. Donc leur esprit était occupé du sépulcre. Leur esprit était occupé du corps du Seigneur. Leur esprit était occupé pour préparer les aromates et les parfums qu'il était coutume d'employer pour embaumer un cadavre. Le texte nous dit qu'il y a quelque chose qui va interrompre cela. Toutefois, le sabbat juif était là et interrompait leur activité. Je dirais qu'il était inutile. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus n'était plus là dans le sépulcre. Donc ces femmes n'ont rien compris, comme les apôtres aussi. l'affirmation de Jésus, quatre fois répétée dans l'évangile selon Luc, que Jésus va ressusciter. N'empêche, parce que Luc nous rapporte, quand même on voit par leurs gestes l'amour qu'elles témoignent pour leur Seigneur. Je m'arrête à dire quelques remarques ici en disant, un sauveur mort ne donne rien à l'âme humaine qui se replie sur elle-même pour chercher la paix dans ses propres œuvres et ses rites. Un sauveur que l'on se représente comme étant encore crucifié ne produit qu'une religion morte et maintient l'âme dans l'esclavage. Gloire à Dieu! Nous avons un sauveur victorieux des liens de la mort qui communique à la fois l'espérance et l'expérience de la pleine suffisance de son amour, de sa puissance dans notre vie de chaque jour. Paul le dit d'une manière magistrale, hein, et je vous répète tout simplement, regardez à Éphésiens 1, verset 18 à 20, où il prie pour les Éphésiens, et cette prière nous est utile aussi aujourd'hui. Verset 18 du chapitre 1 d'Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il continue dans cette prière, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ, comment ? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Nous sommes rendus vivants avec Christ et nous avons sa puissance disponible pour vivre au quotidien la vie chrétienne. Malgré les épreuves, malgré les luttes, nous avons cela et surtout l'espérance, cette certitude que nous allons le voir tel qu'il est. Et nous aurons changé. Hein, et fini la maladie, fini les luttes, fini le péché. Hein, ça, c'est l'espérance des chrétiens. J'aimerais quand même, quand vous lisez le texte, hein, vous l'avez lu chez vous, hein, c'est que ces femmes, maintenant, on va les suivre, hein, ils vont passer de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement. Qu'est-ce que nous voyons premièrement ? Première surprise. Ces femmes s'approchent du tombeau. Et seul l'évangéliste Marc, hein, qui nous rapporte qu'en chemin, elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Marc 16, 3. Donc il y a une question qui se posait. Donc ces femmes vont au-devant d'un obstacle qui défie leur faible force, n'est-ce pas ? Rouler cette pierre devant le sépulcre. Et la réponse, nous lisons, Luc nous le rapporte, verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Elles ne se rendaient pas compte, ces femmes. C'est normal qu'elles se posaient la question. Elles ne savaient pas que le Seigneur ressuscité est déjà à l'œuvre et qu'il a déjà vaincu l'obstacle qu'elles pensaient devoir affronter. Le Seigneur ressuscité était déjà à l'œuvre. Et nous lisons, Matthieu rapporte comment s'était passée la chose. Nous lisons dans Matthieu 28, versets 2 à 4, qu'un tremblement de terre se produisit au moment où un ange roula la pierre. Et rappelez-vous, il y avait des gardes devant ce sépulcre. Et le sceau était sur la pierre pour attester qu'il est bien dedans. Et les gardes romains s'évanouirent de peur, nous lisons, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts quand il y avait ce tremblement de terre qui est arrivé d'une manière surnaturelle. Matthieu 28, verset 4. Je vois qu'il y a un encouragement et quelque chose qui me touche dans cette manière de faire où les femmes anticipaient les problématiques, mais Dieu a pris de l'avance à résoudre les problèmes. Oui, le Seigneur est toujours là avant nous. Il intervient même avant l'aube. Et ça me fait rappeler ce que disait ce psalmiste. Hein. « Voici, il ne sommeille ni ne dort. Elles vont de surprise en surprise. Quelle est la deuxième surprise? Qu'est-ce qui se passe? Et elles vont aller d'étonnement en étonnement. Et nous lisons dans Luc 24, versets 3 à 4. Hein. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Pourtant, elles avaient tout préparé pour embaumer ce corps. Et vous voyez la réaction comme rapporte Luc? Comme elles ne savaient que penser de cela. Que penser de cela? Troisième surprise. Elles ne s'entendaient pas. Le Seigneur vient à leur secours d'une façon digne, je dirais, de l'événement qui vient de se produire. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Au lieu du corps mort, elles trouvent deux hommes en vêtements éclatants. Ils entendent de leur bouche que le Seigneur est maintenant vivant. Il ne gît plus parmi les morts. L'ange dit d'une manière ferme, hein, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Verset 5 et verset 6, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Gloire à Dieu, il est ressuscité notre Seigneur. Et ses femmes n'ont rien compris. Comme les apôtres n'ont rien compris. Pourtant, ils ont passé du temps avec le Seigneur presque 3 ans. N'est-ce pas? Et le Seigneur les a avertis de ce qui allait se passer. Mais ils n'ont rien compris. En étudiant le texte, je vois quelque chose quand même, c'est frappant. De voir ces témoins les uns après les autres. Concernant ce récit de la résurrection. Et Luc montre bien cela. Il y a le premier témoin de la résurrection de Jésus ici, les anges. Le premier témoignage de sa résurrection vient de la bouche des anges, comme nous venons de le lire. Et le deuxième témoignage de la résurrection de Jésus vient de la bouche des anges qui rappellent ce que Jésus avait déjà dit de son vivant. Oui, Jésus lui-même a prononcé les paroles pendant sa vie. Il avait prédit sa mort et sa résurrection. Et ce qui est, heureusement, une bonne nouvelle, quand ces paroles leur sont appelées, elles s'en souviennent. Elles s'en souviennent. Ça, c'est quelque chose de magnifique. On n'est jamais neutre devant la parole de Dieu. Soit la parole de Dieu agit dans notre vie, soit nous le croyons, soit nous le rejetons. On ne peut pas avoir un juste milieu. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu, la parole que nous avons reçue, elle n'est jamais perdue. Elle n'est jamais perdue. Et là, elles s'en souviennent. Ah oui, mince, elle avait dit. Elle avait dit. Donc, important, et ça nous rassure que quand on lit la parole de Dieu, quand Dieu parle à notre cœur, nous ne sommes pas amnésiques. Nous allons nous souvenir, et le Saint-Esprit nous le rappelle toujours ce que le Seigneur nous enseigne. Luc 24, versets 6 et 7, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, voyez, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Oui, nous lisons Luc 24, versets 3 et 4. Hein. Et elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, et comme elles ne savaient que penser de cela. Ça montre la consternation. Ils étaient perdus devant cet événement. Mais au moment de cette consternation, le Seigneur va les guider. Nous avons chanté ce cantique ce matin. Il est la lumière. Il est mon guide. Et maintenant, leurs pensées vont être orientées dans la bonne direction. La bonne direction, l'ange va leur dire, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Posons la question maintenant, mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit et qu'ils doivent se souvenir de ce qu'il leur avait dit en Galilée? Oui, La réponse, c'est verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. J'aime beaucoup. Regardez dans la Bible ces impératifs divins. Il faut que, il faut que, il faut que. C'est la nécessité biblique. Hein? Et là, c'est un impératif. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains du pécheur, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est maintenant devenu désormais le Seigneur, le sauveur des pécheurs qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Il est crucifié pour leur offense, ressuscité pour leur justification conformément aux Écritures. Oui, chers amis, il n'y a aucun de salut en aucun autre. Non, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que la foi en Jésus-Christ, en la foi dans ce qu'il a dit, en la foi de ce qu'il a fait, accompli sur la croix, pour régler une fois pour toutes le problème du péché qui nous sépare de Dieu. Donc, la première chose dont elle devrait se souvenir, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et je vois ici quelque chose qui est important, que souligne aussi Luc, dans le verset 8 de Luc 24, il dit « Elle se souvint des paroles de Jésus. » Je vois ici l'importance que Luc met sur la Bible, la parole de Dieu. Il à deux reprises, si vous avez remarqué, au verset 6, verset 8, il va faire référence à l'importance de ce que disait, enseignait Jésus. Verset 6, nous lisons, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Verset 8, « Elle se souvient des paroles de Jésus, de ce qu'il vous a parlé. » Et maintenant, verset 8, « Souviens des paroles de Jésus. » Très important pour Luc et pour nous aujourd'hui aussi, la parole de Dieu. Le Seigneur a soin de mettre en premier lieu, je dirais, à la place d'honneur, la parole divine. Car Dieu demande désormais la foi en ce qu'il dit, la foi en ce que son Fils a accompli sur la croix pour sauver les pécheurs qui croient en lui. Et oui, l'apôtre Paul magistralement dit ceci en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus veut vous sauver de vos péchés. Placez votre confiance en lui. Question de foi. Question de foi dans le sens qu'il faut placer une totale confiance dans ce qu'il a accompli pour régler cet obstacle du péché qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu, qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. Ne tardez pas, hein, il est temps de régler ce problème. Combien le péché est réel, le péché est grave, le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous détruit par ses effets, ses conséquences aussi. Ce qui nous amène maintenant à regarder, donc on a vu l'expérience des femmes au sépulcre, mais maintenant ces femmes vont aller maintenant rendre témoignage de ce qu'elles ont vu aux disciples. Et c'est ce qui nous amène à la partie 2, donc l'effet du témoignage des femmes sur les disciples. Luc 24, 9 à 24, verset 9 à verset 12. Nous allons lire maintenant ce que nous raconte et nous rapporte Luc ici. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Attention, quand il dit aux 11, nous savons qu'il parle précisément des apôtres. Est-ce qu'ils étaient vraiment 11? Ils étaient combien? Combien? Ah non, ils étaient 10. Eh oui, Thomas, il n'était pas là. Judas, déjà, s'est suicidé, s'est pendu. Eh bien oui, Thomas, nous lisons qu'il n'était pas là, donc ils sont 10. Mais c'est une manière de parler, chaque fois qu'on dit aux 11, on parle des apôtres. Donc, ici, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Tiens, il n'y avait d'autres personnes avec les apôtres. Où se trouvaient-ils, ces hommes, ces 11 et ces autres? Où se trouvaient-ils? Dans la chambre haute. Tout ce qui se déroule maintenant, c'est dans la chambre haute. Vous allez voir un va-et-vient entre le sépulcre et la chambre haute. Un va-et-vient entre Emmaüs et la chambre haute. Et il faut suivre ça. Donc, verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 10, celles qui dirent ces choses aux apôtres. Là aussi, celles, on parle des femmes. Et on a l'impression à un moment aussi que Marie Magdala, qui était dans lequel on a sorti cette démon, elle, on dirait qu'elle est la porte-parole de ces femmes. Hein? Donc, il faut regarder le texte hein, dans tout ça, comment il est présenté. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ah, c'est pas seulement les femmes de haute distinction, mais aussi d'autres qui étaient avec elle. Comme les 11, il y avait d'autres avec eux. Il prit ce discours, oula. Donc les femmes rapportent des témoignages et nous lisons, ils prirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Vous allez regarder dans Jean chapitre 20, en faisant les parallèles entre les passages. Luc parle que de Pierre, mais Jean parle qu'il y avait Jean et Pierre qui ont couru au sépulcre. Il faut aller voir Jean chapitre 20. Et nous lisons, quand ils ont couru, il y a Jean qui arrive en premier. Et Jean regarde juste, mais il ne rentre pas dans le sépulcre. Lisez Jean chapitre 20. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, comme il sortait de la chambre haute avec Jean, il courait aussi, mais il arrive en deuxième après Jean. N'est-ce pas? Et nous lisons dans Jean chapitre 20 que Pierre n'a pas cru. Et nous lisons dans Jean chapitre 20 que Jean qui était arrivé en premier n'entrait pas, mais plus tard il a cru, mais pas Pierre. Donc il prit ce discours pour des rêveries, il ne crut pas ses femmes, mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc ici, comme je l'ai dit, Luc précise non seulement les femmes de distinction, mais aussi d'autres qui étaient avec elles. Donc il y a un va-et-vient qui va s'établir entre le tombeau et la chambre haute. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre haute? Déjà, ça donne une signification, chambre haute. J'imagine qu'ils étaient à l'étage. Et tout était, vous lisez dans Jean chapitre 20, c'est Jean qui rapporte, tout était, les portes étaient verrouillées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Eh oui, des Juifs. Mais Marc dit par ailleurs, non seulement qu'ils avaient peur, mais ils étaient complètement démoralisés. Ils ont perdu tout espoir. Donc les femmes sont retournées et rapportent toutes ces choses aux 11. C'est comme on dit les bleus, les 11. Hein. Combien hein, au foot on joue? 11. Oui, les 11, les bleus. Ah, donc une manière de dire, c'est les apôtres. Hein, donc il faut bien. Mais ce n'était pas 11, ils sont 10. Hein. Donc il faut faire attention. Donc c'est-à-dire qu'elles leur présentent le témoignage. Ils vont te présenter quoi les femmes? Le témoignage des anges. C'était la première surprise. Pierre était roulé et les anges, deuxième surprise. Les paroles du Seigneur que les anges ont rappelées. Et aussi les témoignages visuels de ses propres femmes, de leurs propres yeux. Le corps du Seigneur n'est pas dans le sépulcre, pourtant ils ne les croient pas. Comment appelle-t-on ça aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle les sceptiques, n'est-ce pas? Et on peut appeler aujourd'hui pour les sceptiques, oh, c'est que des contes. Ici, Luc dit que c'est des rêveries. Mais quand je regarde le grec, hein, ce mot rêverie, c'est pas des rêveries, c'est le délire. Le mot grec ici, c'est le délire, et non pas une rêverie. Oui, qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'est-ce que cela nous apprend? Rappelez-vous quand Jésus a ressuscité Lazare. Ils ont vu quelqu'un de mort qui est ressuscité. Est-ce que les gens ont cru? Tous. Est-ce que tous ont cru? Non. C'est pas parce qu'il y a un mort qui est ressuscité que pour cela ils vont croire. Et oui, la Bible nous le dit. Qu'est-ce que ça nous apprend? Cela nous apprend que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, les disciples, combien d'années ils ont passé avec Jésus? Presque en intimité. Presque plus de 3 ans. Et Jésus, est-ce qu'il lui a leur manqué de les avertir que ça finira comme ça? Il faut qu'ils soient morts et ressuscités. Ah bien sûr qu'il a averti. En Luc, nous l'avons dit 4 fois. C'est pas pour autant qu'ils ont passé du temps avec Jésus, que Jésus les a enseignés, qu'ils ont compris la raison d'être de sa venue. Comme je viens de dire, c'est pas parce que vous voyez un mort ressuscité, un miracle surnaturel, que vous allez croire en Jésus. C'est pas possible. La Bible démontre. Il y en a ceux, oui, mais il y en a d'autres, surtout pas. Oui, ça nous montre que l'homme livré à ses seules ressources ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Autrement dit, vous ne pouvez pas capter les choses spirituelles par votre intelligence naturelle. La preuve, Nicodème, un docteur de la loi, quand Jésus lui parlait de la nouvelle naissance, ça lui passe au-dessus de la tête. C'est pas par notre intelligence naturelle que nous pouvons saisir les choses spirituelles. Pour saisir les choses spirituelles, il faut une intervention surnaturelle de l'Esprit de Dieu pour éclairer nos yeux spirituel pour voir et comprendre ce qui est écrit, ce qui est là. Oui, pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas sur vos épaules, vous dites, oui, c'est vrai, c'est pas là qui parle, c'est la parole de Dieu qui est dit là, qui est claire. Quoi? Oui. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous convainc de péché, de jugement, justice, rien à faire. Rien à faire. Comme disait Paul, je ne parle que comme des cymbales qui résonnent, qui retentissent, mais qui ne produisent aucun effet. C'est pour ça qu'on supplie, on prie que la parole de Dieu puisse porter effet dans nos cœurs, dans nos âmes. Et ça n'est possible quand l'Esprit de Dieu agit dans ce lieu. Et c'est que j'espère qu'il nous illumine, qu'il parle à notre cœur. Et ces passages sont là pour montrer combien on a besoin de cette grâce de Dieu pour pouvoir voir pour une fois ce qui est déjà là depuis dans la parole de Dieu. Comme je viens de dire auparavant, maintenant, ils n'ont pas cru les témoignages de ces femmes. Et comme connaissant toujours Pierre, impulsif, il va de lui-même sortir de la chambre haute, il va aller voir, justifier, vérifier si c'est vrai ce qu'on dit ces femmes, n'est-ce pas? Nous lisons 24-12, hein, Luc, mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Oui? Il court au sépulcre pour voir, et ce qu'il voit confirme les paroles des femmes, n'est-ce pas? Il trouve effectivement l'absence, le vide, mais pas les anges. Alors il reste dans l'étonnement plutôt que dans la foi. Et je dirais, il a fait tout cela pour rien. Parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Juste un. Quand j'étudie les passages parallèles, hein, il est intéressant, c'est uniquement Marc qui dit quelque chose, qui décrit l'état moral l'état d'âme des disciples enfermés dans la chambre haute. Nous lisons ceci, j'aimerais que vous le lisiez avec moi, Marc 16, verset 10, pour décrire dans quel état lamentable, psychologiquement, spirituellement, ils étaient, ces 11, et ceux qui étaient avec eux. Marc 16, verset 10, nous lisons, elle, c'est Marie de Magdala, c'est celle à qui Jésus a fait sortir cette démon. Alla emporter la nouvelle à ceux. Qui sont les ceux? C'est les 11 des apôtres. Qui était avec lui? Qui était lui? Jésus. Et qui, écoutez bien, ceux qui étaient avec lui, Jésus, qui s'affligeaient et pleuraient. La Bible ne dit pas combien de temps par jour il pleurait. Il s'affligeait. Il pleurait. Marc dit cela pour nous montrer et pour mettre l'accent sur l'incrédulité des disciples qui menaient le deuil et pleuraient au lieu de se réjouir de cette bonne nouvelle que les femmes ont donnée. C'est un peu nous. Inconsolable. Souvent, fermer les yeux, tellement le cœur incrédule, qu'on a cherché ce qui doit être là. Au lieu de se réjouir, il est ressuscité et croire, eh bien, tête bêchée toujours dans cette incrédulité et toutes les souffrances, les pleurs, les larmes que cela a pour conséquence. Et vous savez, cela ne s'est pas passé comme ça. Rappelez-vous quand Jésus maintenant va les voir, ses enfants, d'une manière surnaturelle. Il arrive, porte fermée, il se présente devant eux. Jésus, lorsqu'il leur apparut, il leur reprocha leur incrédulité. Et il dit, c'est le fruit de la dureté de votre cœur. Et Jésus montrait clairement qu'il devait croire le témoignage de la résurrection. Vous savez, aujourd'hui, la résurrection de Jésus est très contestée par des gens qui sont des spécialistes de la Bible, ce qu'on appelle des théologiens libéraux, qui contestent. Il y a beaucoup, et ce n'est pas nouveau. Même à l'époque de Jésus, il y a les Sadducéens qui ne croyaient pas la résurrection. C'est pas nouveau. Mais en tant que croyant, Jésus est en train de tester, le reprocher, et cette reproche nous devons prendre pour nous, si vous hésitez ou si vous doutez, un petit chouïa sur la résurrection de Jésus. Il faut le croire qu'il est ressuscité, il est vivant et il est avec son peuple aujourd'hui. Ça, c'est la leçon que nous donnent ces passages. Ces failles de ses disciples, Jésus reprochait, et comment doit-on penser? On doit penser autrement qu'au lieu d'être enfermé dans ses tristesses, dans ses pleurs et de ses afflictions qu'ils n'ont que cherché parce qu'ils ne voulaient pas croire. Cela nous amène maintenant à la rencontre de Jésus avec deux disciples qui viennent d'un village qui s'appelle Emmaüs. Et l'effet de cette rencontre. N'oublions pas, ils étaient tous enfermés dans la chambre haute. Nous avons dit, il y a les 11 et les autres. Nous avons dit qu'il y a les femmes et les autres. Les femmes de distinction et les autres. Et donc, ici, avec les 11 qui vont sortir de la chambre haute, il y aura deux disciples qui vont rentrer chez eux. Avec le même état d'esprit comme je voyais, hein. Qui s'affligeaient et qui pleuraient. Et on voit dans leur discours, ils sont perdus. Et c'est ce que nous allons lire maintenant dans Luc 24, versets 13 à 21. Et voici ce même jour, le jour de la résurrection, c'est dans l'après-midi, ici. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pour dire que ça tournée. Hein. Les discussions n'étaient que ça. Hein. N'est-ce pas? Ça les a tellement tourmentés, les affligés, et les a fait pleurer, et ils ne parlaient que de ça. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est là l'intervention de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on voit. Ici, ils étaient empêchés de voir Jésus. Mais pour un temps. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Est-ce que Jésus ne le savait pas? Bien sûr que si. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ah tiens, nous l'avons dit qu'ils affligeaient et pleuraient, hein, selon Marc. Et donc, ils avaient l'air attristé. Vous voyez très bien l'état psychique dans lequel ces deux disciples quittaient les onze et les autres, ils partent chez eux. Ça n'allait pas du tout. Ils pensaient qu'en allant chez eux, tout va s'arranger. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ça, en fin de compte, maintenant, on comprend mieux ce qui était dans leur tête. Pourquoi ils étaient si affligés, qu'ils pleuraient? Parce que tout leur espoir dans le Messie tombe à l'eau. La Palestine était sous l'occupation romaine. Il attendait quelqu'un, le héros qui va délivrer le pays de cet occupant qu'on n'en voulait pas. Et oui, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées pour dire, rien ne change. On a perdu l'espoir. Donc ici nous sommes le jour de la résurrection. Deux disciples viennent de quitter la chambre haute pour rentrer chez eux dans un village nommé Emmaüs, à 12 km de Jérusalem. Le récit suivant nous amène à l'après-midi du jour de la résurrection. Et là, Luc nous donne en détail l'histoire des deux disciples d'Emmaüs. Et comme je vous ai dit, ça montre très bien l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient. Ils n'étaient pas bien du tout. Et ça représentait bien l'ambiance dans la chambre haute. Je ne sais pas, j'exagère, le texte ne le dit pas. Et tellement peut-être qu'ils en avaient assez, et on va rentrer chez eux. C'est pas possible. Et oui, ces deux disciples s'éloignaient manifestement de Jérusalem pour retourner chez eux, déçus, dans la lamentation, découragés à l'extrême. Et ces deux disciples avaient nourri de ferventes espérances centrées sur le Messie. C'est l'attente messianique des Juifs. Et ils croyaient le trouver en Jésus, ce héros, le Messie, qui va délivrer Jérusalem de l'occupant. Il dit, c'est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et voilà, leur foi ne s'arrêtait que là. Ils connaissaient du Messie que de cet aspect. Et tout leur problème vient de là. Ils ne percevaient pas encore en Jésus, le Fils de Dieu, que la mort ne pouvait retenir, et ainsi pour eux, sa mort était la fin affligeante de son histoire. Mais ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ils pensaient vraiment que c'était celui qui aurait dû délivrer Israël, comme nous rapporte ici le texte. Hein. Mais alors pour eux, cela voulait dire les délivrer par sa puissance du pouvoir de tous les ennemis de leur nation. Quel est le problème ? Le problème venait du fait qu'ils avaient nourri des espérances qui n'étaient pas établies sur la parole de Dieu. Ils s'attendaient à la gloire sans la souffrance. Ils s'attendaient à un Messie glorieux et occultaient qu'avant la gloire, ce Messie passe par la souffrance. D'abord un Messie souffrant, puis viendra un Messie triomphant. Et eux, ils n'ont pas compris cela. Et vous savez, et ça c'est le message ici pour nous ce matin, au milieu du doute, du découragement, Jésus intervient et j'aimerais que vous regardiez un passage crucial. Ouvrez votre Bible dans Luc 24, versets 26 et 27. Et on va sauter versets 44 et 45. Je dirais, c'est le plus merveilleux et le plus important de toute la Bible, ce qui est dit dans ces deux et quatre versets. Sortez votre Bible, Luc 24, versets 26 et 27. Au comble du découragement, du doute, du désespoir, Jésus va sortir quelque chose de plus précieux, je dirais, les messages les plus merveilleux et les plus importants de toute la Bible. Verset 25. Alors Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence. Oh, c'est trop fort ça, méchant. Aux hommes sans intelligence, je veux dire insensé. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26, la nécessité divine, l'impératif divin. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Vous voyez, souffrance d'abord, gloire après. Les prophètes l'ont dit. Et commençons par Moïse, ça veut dire le Pentateuque, les cinq livres de Moïse. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. À retenir ce qui le concernait. Versets 44 et 45, puis leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ah, donc ils étaient informés. Ils étaient enseignés à ce sujet. Qu'il fallait que s'accomplisse l'impératif divin. Tout ce qui est écrit de moi, dans quoi? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ici, nous voyons l'acronyme, ce qu'on appelle le Tanakh. C'est la Bible hébraïque, c'est la Bible de Jésus, si on peut dire entre guillemets, quand il était sur terre. Eh bien, c'est résumé ici. La loi de Moïse, c'est les cinq livres, les Pentateuques, les prophètes et les psaumes. Les psaumes, hein, c'est ce qu'on appelle hein, les Ketuvim. Et ici, il nomme les psaumes. C'est intéressant de savoir que le plus volumineux dans cette partie qu'on appelle les Ketuvim, dans le Tanakh, et aussi le plus volumineux, c'est les psaumes. C'est pour ça qu'on donne au nom du livre le premier livre qui est le plus volumineux de la collection. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, dans la loi de Moïse, les Pentateuques, dans les prophètes et dans les psaumes. Les psaumes, c'est le plus volumineux des livres du Ketuvim qui s'appelle les autres écrits. Et donc, ça, c'est la Bible de Jésus. Et ça, donc, c'est écrit dedans. Ça concerne qui? Ça concerne le Messie qui doit d'abord souffrir et qui va être glorifié après. Et ça, c'est le plan de Dieu pour eux. Ici donc, il agit avec eux, Jésus, à leur faire comprendre que sa mort et sa résurrection étaient le fondement indiqué à l'avance de toute gloire qui était encore à venir. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? Oui, certainement, et puisqu'il devait souffrir, il avait souffert. Revenons sur le problème de Cléopas, l'un de ses deux disciples. Où était l'erreur de Cléopas? Cléopas, j'imagine que ce n'est pas le seul. Peut-être les onze aussi. Le texte ne nous le dit pas. Mais en tout cas, Cléopas était absorbé par l'idée que Israël devrait être délivré de l'occupant romain et que Jésus soit le héros pour détruire l'ennemi. Mais ne jetons pas la pierre si vite sur Cléopas. N'est-ce pas? Ne nous sommes pas souvent aussi comme ces deux disciples. Je m'adresse à moi aussi inclus dans cela. Cela ne nous arrive-t-il pas parfois d'avoir la pensée à ce que Christ nous débarrasse des problèmes, des épreuves de notre vie, pour en faire un paradis sur terre, n'est-ce pas? Un endroit meilleur et plus heureux? Cléopas en voulait déjà le royaume glorieux débarrassé des Romains. Et nous sommes des rêveurs un peu fantaisistes comme ça. N'essayons-nous pas parfois de ramener Christ dans nos circonstances en vue de notre confort temporel et de notre gloire terrestre? C'est exactement la même mentalité que Cléopas. Jésus était sévère, insensé, sans intelligence. C'est le mot que Jésus a adressé aux scribes quand il les reprochait, le même mot. Mais Jésus leur amène à la raison et complète leur manque dans leur théologie. Avez-vous remarqué quand Jésus se joint à eux, il leur expose non des choses qui concernent Israël, comme pensait Cléopas, mais les choses qui le concernaient lui-même. Vous voyez, verset 27, commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Oui, le remède sûr contre les déceptions, c'est de donner à Christ toute la place dans ce dont notre esprit est occupé. Donner à Christ toute la place dans ce dont notre esprit est occupé. Souvent, nous sommes occupés par « qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, le service chrétien ?»« Ah, qu'est-ce que je peux faire pour mes frères et sœurs ?»« Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ?» Nous sommes tellement préoccupés de ça. Et même parfois, peut-être nous-mêmes, ce qui nous élève, ce qui nous satisfasse notre ego. Oui, le service chrétien, les relations avec les frères, l'Église, c'est important. Très important, je ne dis pas le contraire. Mais Jésus dit, ces préoccupations n'est pas la principale. Il faut d'abord chercher l'essentiel de trouver Christ, ce qui le concerne, avant notre propre préoccupation, comme l'a été pour Cléopas. Oui, ce que nous devons chercher, c'est le Christ. Les pensées de Dieu et celles-ci nous dévoilent son Fils. Quand nous voyons les pensées de Dieu dans les Écritures, ça ne fait que dévoiler son propre Fils. Et j'aime beaucoup ce cantique de Ruben Sayans qui disait « Jésus-Christ tout entier dans la Bible tout entière ». Ça veut dire que vous ouvrez la Bible depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, vous ne voyez que Christ dans chaque page de la Bible. Toute la Bible parlait de lui depuis l'Ancien Testament. Jésus accepte avec ses deux disciples de rester avec eux. Et ça, c'est une belle image, si vous voulez. Il prend vraiment la place qui est la sienne, qui est de droit. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand nous acceptons Jésus comme le Seigneur, Seigneur veut dire le Maître, nous nous soumettons à lui et nous sommes à sa disposition totale. Et il est à sa place. Toujours la relation maître-esclave, c'est les extrémités d'une même relation. Accepter Christ comme le Seigneur, le Maître, c'est accepter que je suis son esclave, je me soumets à lui. Ça, c'est la relation que Dieu veut voir dans nos vies. Et vous savez, une fois que c'est fait, nous lisons, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Les deux disciples, les yeux s'ouvrent. Pourtant, il était empêché de le reconnaître. Mais nous lisons plus tard. Alors, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Quelle joie pour leur cœur, je dirais, lorsque soudain, ils discernent leur Seigneur ressuscité. Et vous savez ce qui se passe? Incroyable. Nous sommes dans la nuit. Hein. C'était l'après-midi qu'ils voyageaient pour aller faire 12 km, rentrer à la maison. Et Jésus venait sur la route avec eux. Maintenant, la nuit tombe. Ils ouvrent les yeux, ils ont vu que c'est le Seigneur. Ils l'ont reconnu. Eh bien, ils vont faire marche arrière maintenant. La nuit même, ils vont retourner où? Dans la chambre haute qu'ils avaient quittée en début de l'après-midi. Eh oui. Bien que la nuit soit tombée, ils reprennent le chemin de Jérusalem pour chercher la compagnie des autres disciples qu'ils ont quittés. N'oublions pas, comme j'ai dit, ils viennent de faire 12 km, ils repartent en sens inverse. Pas dit dans le texte, mais Il me semble qu'ils ont quitté la chambre haute en cherchant peut-être la solitude. Maintenant, la foi et l'espérance étant ranimées, ils recherchent la compagnie des frères. Et peut-être les encourager aussi, ces 11 qui tellement tristes et pleuraient. Il en est toujours ainsi pour nous aussi, n'est-ce pas? On voit que les états d'âme des disciples, le jour de la résurrection, c'est important, c'est ce qui nous est rapporté dans ces passages parallèles, étaient variés au matin de la résurrection. Rappelez-vous, Pierre était tombé. Thomas doutait. Marie de Magdala dans la désolation. Les deux disciples d'Emmaüs remplis de déception. Ça, c'était les états d'âme de ces personnes. Au matin de la résurrection. Mais il est heureux, et c'est ça qui me fait du bien quand j'ai lu ce passage. Quelle grâce Dieu a accordée envers ces personnes en différents états d'âme. Le Seigneur lui-même s'adapte à eux dans leurs états, spirituels états d'âme. Oui, le Seigneur a une parole de restauration pour ceux qui sont tombés. Une parole de reproche. Oui, mais quand même d'encouragement pour ceux qui doutent. Une parole de consolation pour la désolée. Et une parole de réveil pour toucher le cœur et atteindre la conscience des déçus. Magnifique, notre Seigneur. Je vais terminer ce message en soulignant deux faits que je vois dans Luc chapitre 24. Et c'est un bien précieux pour nous aujourd'hui aussi. Le premier, et celui-ci, au milieu de toute notre ignorance, malgré notre grande faiblesse, quelqu'un nous a trouvé qui s'associe à nous pendant notre marche dans ce monde. C'est le Seigneur Jésus. Oui, je ne parle pas ici du chemin de la désobéissance. Nous avons quelqu'un qui vient se placer à côté de nous, qui marche avec nous, qui nous entoure de sympathie, de sollicitude, comme il l'a été avec ses disciples dans ces divers états d'âme que je viens de vous décrire. C'est bien dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux d'avoir un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Qui est le Seigneur? Je le vois ici. Il ne les a pas rejetés. Ils ont remonté, requinqué pour être prêts. Nous savons l'histoire, la suite, après sa résurrection. Oui, quelqu'un qui nous encourage sur ce chemin qui conduit à la gloire, dans laquelle il veut, lui, nous introduire auprès du Père. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit ceci, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection, comment? Par les souffrances, le prince de leur salut. Oui, amener beaucoup de fils à la gloire. Lui-même, le Seigneur, à la gloire. Mais il faut que il passe par la souffrance d'abord. Un Messie souffrant et plus tard un Messie triomphant. Et parce que Jésus lui-même a marché sur ce chemin, il n'y a pas de meilleur guide que lui. Pas de meilleure main à laquelle se tenir. Ça, c'est la première chose que je vois et qui est encourageant. Comment le Seigneur vous maintient? Ah, nous tous ici, nous sommes faibles comme ces disciples, comme ces femmes. Nous faisons plein de bêtises. Nous sommes des pécheurs. Et combien le Seigneur a différents besoins, donne la solution, apporte le réconfort, l'enseignement, parfois les reproches aussi. N'est-ce pas? Mais pour notre vie. Deuxième chose que je vois dans Luc chapitre 24, quand je lis ce passage, c'est que le Seigneur Jésus vient s'asseoir à table avec ses disciples, avec les deux d'Emmaüs, mais quand il s'est présenté à eux aussi dans la chambre haute, oui aussi avec eux, il leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent reconnaître l'œuvre accomplie à la croix. N'est-ce pas Thomas, Didyme, qui doutait, qui ne voyait pas, eh bien Jésus est obligé de montrer. Regarde mes mains, regarde mes pieds. Et oui. Il leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent reconnaître l'œuvre accomplie à la croix, puis disparaît de devant leur regard. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'ils s'en soient allés. Il est toujours au milieu d'eux, mais invisible. Il est là et les disciples peuvent réaliser que le Seigneur n'a pas quitté ce lieu dans lequel il se trouvait. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous n'avons plus le Seigneur Jésus à côté de nous, qu'on peut taper, qu'on peut tapoter, qu'on peut embrasser. Non. La Bible et l'apôtre Paul disaient, nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'était la réalité pour les disciples. Quelque temps après sa résurrection, 40 jours après. Et c'est de même pour vous. Mais nous pouvons réaliser selon sa promesse, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, il est au milieu de nous ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Aussi sûr que je peux toucher une chaise d'une manière tangible, aussi sûr le Seigneur est là. C'est les yeux spirituels qui nous voient. Et c'est ça qui nous donne le courage de continuer. C'est ça qui nous donne la joie de nous rassembler pour ce Seigneur vivant, pour ce Seigneur ressuscité. Il est vivant. Joyeuse Pâques.